إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحييكم بتحية الإسلام في بيت من بيوت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون موضوع درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى باب عظيم وأساس من أسس الدين القويم، ألا وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تعلمون أن هذا الأمر من عظام الدين، فقد شهد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين. فمعلوم لكل مسلم أن هذا الباب عظيم ومن أبواب الفقه الإسلامي اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، ولا زالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعلوم أيضا أنها سنة الأنبياء، ألا إنهم أمروا قومهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. ومعلوم أيضا أن هذا الباب مطلوب لكل مسلم، لكن في الحقيقة في ذلك ينبغي التفقه في هذا الباب قبل العمل به. ومعلوم أن العلم قبل القول والعمل، لهذا سنتدارس في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بعض أحكام هذا الباب العظيم، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقول وأكرر، كثير من المسلمين لا يختلفون في هذا الأساس القويم، ألا هو الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الحقيقة في ذلك عباد الله ينبغي معرفة بعض أحكام هذا الباب العظيم، لهذا اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا وأدخلوه في عقائد أهل السنة. ومن راجع متون العقيدة كمتن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أضافوا وأدخلوا هذا الأصل الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة في متونهم، لأنهم افترقوا مع باقي الفرق في هذا الأصل. فلهذا ينبغي للمسلم العاقل الذي يريد أن يدعو إلى الله أن يتفقه في هذا الباب العظيم. ولا شك أن هذا الباب يحتاج إلى ضوابط، ولا يمكن للمسلم أن يعرف هذه الضوابط المتعلقة بهذا الباب العظيم إلا إذا قرأنا ما قال فيه أهل العلم، ولهذا سيكون أصل وعمدة هذه المحاضرة قراءة من كتاب شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، في هذا الباب العظيم. وستسمعون إن شاء الله تعالى ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قلت أن كثيرا من المسلمين يتسارعون في هذا الباب، لكن في الحقيقة كم أفسدوا رغم أنهم أرادوا إصلاحا، كم أفسدوا رغم أنهم أرادوا إصلاحا. بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب جهلهم لهذا الباب العظيم. وأمر به الله تعالى في كتابه القويم، وسأقرأ عليكم بعض الآيات التي ذكر فيها الله تعالى هذه الصفة، وأن هذه الصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات هذه الأمة المحمدية. فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإلى آخر وباقي آيات الموجودة في الكتاب العزيز. ومعلوم أن السنة أمرت بالإتيان بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره. بماذا عباد الله؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث شتى في هذا الباب، لكن في الحقيقة أردت بهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن شروط وضوابط ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الحقيقة ما أردت أن ندخل في هذا الباب لقصد تعريفه وبيانه وتوضيحه وذكر الأدلة فيه وثوابه إلى غير ذلك، فهذا معلوم لكل مسلم. لكن أحببت أن تكون هذه المحاضرة وموضوع هذه الجلسة ضوابط وقواعد وشروط متعلقة بهذا الباب التي تخفى عن كثير من الناس. فلهذا وأكرر، سنقرأ إن شاء الله هذا المقدمة والشرح البسيط القيم الذي رأيته من أحسن وأفضل وأنفع الشروحات البسيطة حسب حالنا. فأخذت هذا الشرح، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشارحها كما معلوم شيخ وفقيه هذه الأمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فمن هذا الكتاب القيم سنتدارس فيما بيننا، وسأكون المستفيد الأول ثم أنتم إن شاء الله تعالى في تفقه ومعرفة هذا الباب العظيم. سأبدأ قراءة إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب بعدما تطرق الشيخ وبدأ في شرحه لمتن هذه العقيدة الواسطية وباب أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الجملة البسيطة ذكر شيخ الإسلام فيها أن هذا الأمر أصل من أصول أهل السنة، فينبغي لكل مسلم، وسنرى إن شاء الله هل يجب أو هذا الوجوب عيني أم كفائي، بمعنى أنه هل يجب على كل فرد منا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم يكفي واحد عن الجماعة فيسقط عن الباقين. هذا ما معنى الفرض الكفائي والفرض العيني. فذكر شيخ الإسلام في قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمن هذه الجملة البسيطة سنسمع إن شاء الله فوائد عظيمة في هذا الباب العظيم الذي ينبغي وأكرر على كل مسلم، سواء من الراعي أو من الرعية في شؤون دينهم ودنياهم. Donc je disais, la séance d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, ça traite un sujet qui est très important pour la communauté et pour la communauté en général, mais en particulier chaque musulman ou chaque individu. Ce chapitre qui est très important, que Allah ta'ala il a décrit aussi et dans nombreux passages dans le Coran, et aussi on le trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les sahaba et les savants, toujours ils ont s'intéressé à ce sujet. Et le sujet, serviteur d'Allah, il traite ordonner le convenable et blâmer le et interdire le blâmable. Ce sujet qui est très important. Et on sait très bien l'importance de ce sujet, mais en réalité, comme je disais, on ne va pas traiter le sujet en lui-même, c'est-à-dire en parlant sur les arguments qui concernent ce sujet, les récompenses et autres sujets concernant ce sujet. Mais ce qui m'intéressait, ou surtout, pourquoi ? Parce que beaucoup de musulmans ignorent certaines choses concernant ce sujet qui est ordonner le bien et interdire le mal. Et beaucoup de musulmans ignorent, et je le répète, et je confirme cette ignorance, et la preuve pour cela est les dégâts qu'on peut commettre et qu'on a commis parce que on a ignoré certains sujets concernant ce sujet très important dans la religion. Et c'est pour cela aussi les savants sont intéressés, ils l'ont intégré, et vous trouvez dans tous les livres du aqidah, du dogme et de la foi, ils l'ont intéressé, ils l'ont intégré dans ce sujet, pour dire que c'est un pilier parmi les piliers, ou un fondement parmi les fondements de la croyance de Al-Sunnah. Donc c'est très important, vu que c'est un pilier, c'est un fondement, il faut le connaître. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas ordonner le bien et interdire le mal si on n'a pas la science concernant ce sujet, et c'est pour ça que c'est très important dans toutes les adorations d'avoir la science avant de pratiquer. Et on va mettre en pratique celui-là. C'est-à-dire, on va apprendre certaines choses, et ces choses que j'ai choisies, ça concerne les conditions. Quelles sont les conditions d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et je répète, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas parler sur le sujet en lui-même, de lister les ayats, les versets coraniques et les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet, et parler sur les récompenses et qui le fait, etc. C'est pas le sujet. Pourquoi ? Parce que ça, il est évident pour chaque musulman apparemment. Apparemment, chaque musulman, tu lui dis, est-ce que c'est bien d'interdire le d'ordonner le bien et interdire le mal, il veut dire oui, par évidence. Oui ou pas, amen. Tout le monde, chaque musulman, a cette croyance. Pourquoi ? Parce qu'il trouve le bien, d'ordonner le bien, et aussi
il y a un mal, donc c'est pour ça qu'il faut l'interdire. Mais ce qui nous intéresse, et en particulier, c'est pour ça, c'est le sujet et le corps de notre assise, c'est parler sur les conditions. Pourquoi ? Parce que si je pose la question, quelles sont les conditions d'ordonner le bien et interdire le mal, illa ma rahima rabbuk. Amir. Connais-tu les conditions ? Est-ce que parmi nous connaît qu'il existe des conditions déjà ? Nordi. Hein ? Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de mal là ? Je le répète chaque fois. Je le mets volontairement de poser des questions. C'est pas pour vous mettre en... Non. C'est pour apprendre ensemble. Et pour surtout, il faut reconnaître qu'on est ignorant. Ça, il faut reconnaître. Parce que si, parce que la preuve, vu qu'on estime qu'on est ignorant, c'est pour ça qu'on vient apprendre de cette assise. C'est normal. Parce que Al-Muta'alim, celui qui prétend qu'il a la science, on ne trouve pas dans une assise. Il va dire, moi je connais. Ça, ce sujet, tu lui dis, quelles sont les conditions ? Soit il te dit, il n'y a pas des conditions, soit il te dit, pourquoi on parle sur ça ? Quelle est l'importance ? Et on va écouter qu'est-ce qu'ils ont dit les savants sur ce sujet. Parce que tout le monde, à l'exception de personne, tout le monde veut ordonner le bien et interdire le mal. C'est un fondement de la religion. On ne peut pas se taire si on voit un mal ou se taire d'ordonner le bien. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on trouve beaucoup de versets dans le Coran et on trouve beaucoup d'arguments aussi selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous recommande fortement de pratiquer ce fondement. Mais est-ce qu'on peut le pratiquer sans connaître certaines choses ? Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Donc le titre de notre assise aujourd'hui, c'est les six conditions d'ordonner le bien et interdire le mal, et ces quatre degrés. Déjà, une personne, ou parmi nous, ou celui qui entend, verse, il va dire, il y a six conditions, six serviteurs d'Allah. Si on ne connaît pas un parmi ces six, on n'est pas capable, on n'est pas apte d'ordonner le bien et interdire le mal. Ça, il faut savoir, serviteur d'Allah. Parce que tout le monde sait que c'est bien d'ordonner le bien et interdire le mal. Mais est-ce qu'on a respecté, on a accompli les conditions pour le pratiquer ? Et c'est pour cela, je dis et j'ai répété que beaucoup de musulmans ignorent tout ça. J'ai mis volontairement et je l'ai dit, comme ça vous aurez une idée qu'il y a six conditions. Qui connaît ces six conditions ? Parmi qui sont assis aujourd'hui. Issa. لا نوردين حسن نوردين يكون إن مسكين لا إله إلا الله وإن عامر حاج كي كوني c'est pour ça j'ai dit que beaucoup de musulmans ignorent ces choses parce qu'ils se précipitent beaucoup à dire ça. Amr bin Ma'ouf, ouais, il faut changer le mal, il faut changer le mal, il faut changer le mal, il faut ordonner le bien. Oui, ça on le sait, le principe il est clair pour chaque musulman, chaque individu, il croit à ça. Mais est-ce que on a ces conditions ? C'est ça le problème qui se pose. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ça, et c'est le sujet de notre assise aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc je vais lire l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah de ce livre très important de Al-Aqidatul Wasitiyya. C'est un livre dans le dogme, qui traite tout le sujet, les fondements du dogme, écrit par Cheikh Islam ibn Taymiyyah, et parmi les savants qu'il a expliqué, il y a beaucoup de savants qui l'ont expliqué, moi j'ai choisi parmi ces explications, parce que j'ai trouvé qu'il a exposé les conditions d'une façon très simple. C'est pour cette raison que je l'ai choisi pour vous, comme ça, vous comprenez facilement, c'est l'objectif. C'est l'objectif, j'ai trouvé que c'est très simple parmi toutes les explications. Parmi 6 ou 7 explications de l'Aqida al-Wasitiyya, vous trouvez l'explication, mashallah, alhamdulillah, vous trouvez partout, dans les librairies et ailleurs, soit en audio, soit en livre, mais j'ai trouvé de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah très simple. On va écouter ensemble, on va entendre, je vais lire l'explication d'une phrase de Cheikh Islam de ce livre, il s'appelle Aqida al-Wasitiya. Al-Aqida al-Wasitiya de qui? De Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Qui l'a expliqué? C'est Cheikh Faqih Hadi al-Ummah, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il a expliqué d'une façon très simple. Et on va lire ensemble l'explication de ce passage. C'est juste une phrase. C'est juste une phrase de l'Aqida al-Wasitiya, mais Cheikh Uthaymin, il l'a expliqué d'une façon très simple, et je le répète. C'est pour cela que je l'ai choisi. Donc, Cheikh al-Islam, il dit dans son livre, il dit ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc, après qu'il a cité beaucoup de fondements de Ahl-Sunnah, c'est-à-dire les musulmans, on est Ahl-Sunnah, parce qu'on s'est réunis sur la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on s'appelle Ahl-Sunnah. Il y a beaucoup de fondements, mais en plus de ça, il y a le fondement Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. Il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Al-ma'ruf. Quelle est la définition du terme al-ma'ruf, c'est-à-dire le bien? C'est quoi le bien pour vous? C'est quoi le bien? قال كل ما امر به الشرع فهم يأمرون به. Tout ce que la législation a ordonné, on doit l'ordonner. Est-ce que c'est clair? Donc, toute chose légiférée et ordonnée par la législation. Mais shara, c'est ça le ma'ruf. Donc ça, on ordonne le bien. C'est ça la définition du bien. Le deuxième, interdire le mal. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer juste le titre. Interdire le mal. Interdire, c'est simple. C'est assez compréhensible pour tout le monde. Le mal, c'est quoi? Al-munkar. كل ما نهى عنه الشرع. C'est le contraire, c'est tout ce que la législation a interdit. Donc on l'interdit. Est-ce que c'est clair la définition du al-ma'ruf? Donc toute chose ordonnée par la législation, et le munkar, le mal, c'est le contraire, c'est toute chose interdite par la législation. Al-shara. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la définition du al-ma'ruf et c'est le munkar? Ouais, c'est clair?
لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
Donc selon le verset de Al-Imran numéro 104, il dit ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير, il appelle au bien, ويأمرون بالمعروف, et qui leur donne le bien, وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ, et il interdit le mal. وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, et aussi dans son hadith, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc aussi ça confirme que même dans le hadith, c'est recommandé de الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ et النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْ ذَلِكَ. Donc, on est recommandé d'ordonner le bien et blâmer ou interdire le mal, et on se précipite à le faire. Et on se précipite à le faire.
Walakin.
Ah, c'est la phrase la plus importante. Parce que si on s'arrête à ce point, on dit, on se précipite à ordonner le bien et interdire le mal, tout le monde doit le faire. Et souvent, tout le monde le fait. Oui ou pas? Tout le monde est champion du monde d'ordonner le bien et interdire le mal, dans ce prétexte. Quand tu dis, est-ce que tu es apte, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais beaucoup de choses, on va les savoir, il va dire, mais de toute façon, on est obligé de changer le mal. C'est ça ce qu'on entend, il faut changer le mal. Mais, on doit savoir qu'il y a des conditions. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin a dit, وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ. Mais, c'est-à-dire la phrase qui précédait, وَلَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْ ذَلِكَ. Donc c'est-à-dire nous, on est recommandé, on est ordonné d'ordonner le bien et interdire le mal, et on se tarde pas à le faire. Mais, il dit وَلَكِنْ
يُشْتَرَطُ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ وَتَقْتَضِيهُ.
Mais, il y a des conditions pour ou quand on ordonne le bien et on interdit le mal, il faut que ces deux choses respectent et que ces deux choses sont conformes à la législation. Ils sont conformes à la législation. Et c'est pour cela, il y a des conditions. Et c'est pour cela, il y a des conditions. Quelle est la première condition d'ordonner le bien et blâmer et interdire le mal? Déjà, il faut connaître la première condition. Quelle est la condition? C'est quoi? Avant d'ordonner le bien ou interdire le mal, la sincérité. Taïeb, supposons on est sincère. Al-ilmu, la science. Ah, que signifie la science? Et pourquoi c'est une condition sur ce sujet? الشرط الأول أن يكون عالما. شيخ العثيمين رحمه الله explique. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية, il a dit juste que nous, on a cette qualité et ce fondement quand on ordonne le bien, on interdit le mal. Ça c'est en gros. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, là, il commence à détailler. Il a dit que c'est recommandé, etc. Mais, et on se tarde pas à le faire, mais il y a des conditions, et ces deux choses, ils doivent être conformes à la législation, et c'est pour ça qu'il y a des conditions. La première condition, الشرط الأول العلم. أولا أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه. Donc la première chose, c'est que tu dois avoir la science sur le jugement de ça. C'est-à-dire, j'ai vu une chose. Tu dois avoir la science et le jugement de ça. Est-ce que c'est bien, donc on l'ordonne, donc on ordonne ce bien, ou le jugement de cette chose, ou cette pratique, elle est interdite ou c'est mal, donc on va l'interdire. Donc la première chose, al-ilmu. بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به. Donc personne peut appeler à faire le bien ou pratiquer le bien si la législation l'a pas ordonné à le pratiquer ou le faire. Est-ce que c'est clair? Je peux pas vous demander, par exemple, là je vous dis levez-vous, faites deux unités de prière et vous aurez la récompense. Est-ce qu'il y a juste de dire ça? Non. Parce que est-ce que ça, on trouve dans la législation? Est-ce que ça existe dans la religion que Nabil vous demande de se lever, faire deux unités de prière et vous aurez la récompense? Ou faire autre adoration? Qu'elle n'existe pas dans Shara. Donc, la première chose, tu dois savoir que cette chose, elle fait partie de la religion. Ensuite, la deuxième chose, connaître son jugement. وَلَا يَنْهَا, et le contraire. Et aussi, on ne peut pas interdire une chose si la législation ou le shara ne l'a pas interdit. Et c'est pour ça qu'il a dit sur le Némit, وَلَا يَنْهَا إِلَّا عَمَّا عَلِمَ أَنَّ الشَّرْعَ نَهَا عَنْهُ. Donc, on ne peut pas interdire une chose si la législation ne l'a pas interdit. Moi, je ne peux pas vous dire, non, ne faites pas ça, ou ça, la yajouz, ou ça, c'est bid'a. Si dans le shara, elle n'existe pas. Je ne peux pas vous dire ça. Et c'est interdit pour quiconque. Donc c'est pour ça que vous savoir que cette chose, elle fait partie de du shara. Et que la législation l'a ordonné, donc si la législation l'a ordonné, donc nous on peut appeler à le pratiquer. Et si la législation l'a interdit, là on peut appeler et dire aux gens, ou dire à la personne, et interdire ce mal. C'est pour ça, et ça c'est tiré de quoi? Pourquoi on dit la science? Ça c'est tiré du verset. Sourate Al-Ma'ida numéro 48. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. C'est-à-dire, dans le sens, rapproché, soit juste avec eux ce que la Ta'ala a révélé. Et bien sûr, la Ta'ala révèle, c'est une science. C'est pour cela qu'elle a dit فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Et ce qui est révélé, c'est Shara, c'est la religion. La religion, c'est pas le prophète qui l'a prétendu, mais c'est la religion d'Allah. Oui ou pas? Donc si Allah Ta'ala a ordonné une chose, on doit appeler aux gens à le pratiquer. Le contrat aussi, si la législation l'a interdit, là on peut appeler à ne pas faire cette chose. Et aussi, il a tiré un verset, cette condition tirée du verset de Sourate al-Isra, numéro 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلٌ أُولَيْكَ عَنْهُ كَانَ مَسْئُولًا. Donc, dans le sens, c'est-à-dire on ne peut pas parler sur une chose sans science. C'est pour ça qu'il a dit وَلَا تَقْفُ, c'est-à-dire tu ne parles pas, tu ne donnes pas un jugement. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Si tu n'as pas de la science. Et aussi un autre verset. Donc vous remarquez, la science elle est très importante avant de d'ordonner le bien et interdire le mal. Cheikh Al-Uthaymeen il dit un exemple. Il donne un exemple pratique pour nous. Il dit: فَلَوْ رَأَ شَخْصًا يَفْعَلُ شَيْئًا الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ. Si une personne voit une autre personne faire une chose, mais cette chose, à la base, elle est illicite. فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَنْهِيٌ عَنْهُ. Je ne peux pas, si je vois une personne, il fait une chose, mais cette chose, à la base, elle est illicite. Par exemple, manger et boire, c'est illicite ou c'est illicite? C'est illicite, parce que c'est ça, c'est la base. S'habiller, c'est licite, parce que ça c'est à la base, rassofier al-hillou. Manger, marcher, dormir, c'est quoi? C'est halal ou haram? C'est halal parce que ça c'est l'asl, ça c'est à la base, c'est une chose licite. On ne peut pas dire ça c'est interdit si on ne connaît pas son jugement. Je ne peux pas interdire une chose si cette chose dans shara' elle n'est pas interdite, et vice versa. Il donne un autre exemple. وَلَوْ رَأَ شَخْصًا تَرَكَ شَيْئًا يَظُنُّهُ الرَّاءِ عِبَادَةً. Et si une personne voit une autre personne, il a délaissé une chose. C'est pas il a fait une chose. C'est le contraire. Il a délaissé une chose que lui il estime que c'est une adoration. فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْمَرَهُ بِالتَّعَبُّدِ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِهِ. On ne peut pas appeler les gens. On ne peut pas ordonner une personne de pratiquer une pratique ou une adoration tant que elle n'existe pas ou tant que l'initiation l'a pas ordonné et l'a pas recommandé. Moi je ne peux pas vous, comme je vous ai dit, vous demander de faire par exemple une pratique sachant que cette pratique elle n'existe pas dans la législation. Donc ça c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que cette chose elle fait partie de la religion. Donc vous remarquez l'importance d'avoir la science avant d'ordonner le bien ou interdire le mal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que la première condition, c'est avoir la science de cette chose, que la législation l'a ordonnée, donc moi je peux ordonner, et vice versa, je dois savoir que est-ce que la législation l'a interdit, donc moi je peux l'interdire. Et c'est très important de maîtriser et avoir la science dans ces choses avant de pratiquer ce fondement. Ash-Shara, la religion. C'est la religion islamique. La deuxième condition. Quelle est la deuxième condition avant d'ordonner le bien et interdire le mal? Aïe. Parce que si on ne connaît pas les cinq conditions, ou six, sur la famille il a cité cinq, on pourra rajouter un sixième, mais on se base juste sur ce qu'il a dit sur la famille, il y a cinq. Si on ne connaît pas les cinq, je vous garantis qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable d'ordonner le bien et ni interdire le mal. Parce qu'on ne sait pas. Si on ne connaît pas ces conditions, comment on peut faire ça? Et c'est pour ça, des fois, on fait ça, c'est-à-dire en pratique, sans faire attention, sans... En sous-estimant ce fondement, et c'est pour ça, des fois, on peut tomber dans des conséquences plus graves. On va parler sur ça. Naam. C'est quoi la deuxième condition? Non, sur le fondement qui est, ou le sujet de notre pratique aujourd'hui, c'est ordonner le bien et blâmer et interdire le mal. J'ai dit, il y a cinq conditions, ou six. Je me base sur cinq, ce qu'il a cité, je crois, la famille, rahimahullah. La première, c'est la science. Deux, la science que cette chose, ce bien, il est recommandé par la législation, par la religion, ou cette chose est interdite dans la religion. Donc, on peut ordonner ce bien ou interdire ce mal parce que la législation le recommande. C'est-à-dire, soit elle ordonne, soit elle l'interdit. Donc, moi, je peux ordonner ou interdire. À chaque plan, la deuxième condition, qui est أن يعلم بحال المأمور. أن يعلم بحال المأمور. Et ça, c'est une condition très importante. On doit connaître l'état à qui on ordonne ce bien, on interdit le mal. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, c'est-à-dire, هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا؟ Est-ce que cette personne, elle est apte, ou elle est capable, ou elle est... Est-ce que cette personne, on peut lui orienter cette chose, c'est-à-dire lui dire, on lui ordonne, on lui interdit.
فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم لا لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل.
C'est-à-dire une personne veut ordonner un bien ou interdire un mal. Et déjà, si besoin, il connaît la première cause. Déjà, il sait par exemple, il a fait une chose pas bien pour lui. Il estime que, selon la législation, selon le char, que ça c'est bien. Et aussi, la même chose, où il fait une chose, il commet une chose qui n'est pas bien, qui est mal, selon la législation. Donc c'est bon, il connaît que ça c'est bien, ça c'est pas bien, selon la législation. Donc, il a accompli la première condition. La deuxième condition, on doit savoir, est-ce que cette personne, elle est mukallaf ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est pubère ou pas? Parce que s'il n'est pas pubère, est-ce qu'on peut l'ordonner de faire ce bien? Une personne est en face de moi. Il n'est pas pubère, voire réel mukallaf. Est-ce que je peux l'obliger, l'ordonner de faire ce bien? Ou l'interdire s'il fait ce mal? Est-ce qu'on peut faire ça? Un exemple, un enfant a 3 ans. Est-ce que je peux l'obliger de faire la prière obligatoire? Non. Il a 5 ans, il a 6 ans, il a 8 ans. Est-ce que je peux l'obliger de faire le ramadan, le jeûne obligatoire, un mois? Est-ce que je peux l'obliger? Est-ce que pour le hajj, je l'oblige? Non, parce qu'il est réel mukallaf. Il ne fait pas partie des gens qui doivent pratiquer cette chose, c'est-à-dire soit faire ce bien ou interdire ce mal. Donc c'est pour ça, donc la deuxième chose, on doit savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'il est apte, pas apte? Est-ce qu'il est pubère, est-ce qu'il n'est pas pubère? Parce que souvent, si on voit un mal, directement Dieu, ça ne fait pas bien. Oui ou pas, Nordi? On le remarque, c'est quoi? Des fois un enfant, il fait une chose. Ça, il y a un jour, ça c'est haram. Oui. C'est vrai, c'est haram. Mais est-ce que tu dois l'obliger de délaisser ça? Ou tu dois l'obliger de pratiquer ce bien? Ce ma'ruf? Non. Parce qu'il n'est pas apte. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. On doit savoir la situation à qui on s'adresse. Est-ce qu'il fait partie des gens? Ou ces choses, ils sont obligatoires pour lui? Ou une femme, par exemple, elle n'est pas encore pubère. C'est-à-dire, elle n'a pas ces signes de puberté, ou pour un homme, et on l'oblige à faire une obligation. Tu es obligé que tu te lèves au fajr chaque jour. Non, on ne l'oblige pas. Pourquoi il ne fait pas partie des gens? C'est-à-dire, lui, il a délaissé la prière, c'est vrai. C'est-à-dire, de l'apparence, on dit, ah, lui, il a délaissé une chose. Donc, ils vont l'interdire. Non, on ne l'interdit pas. Pourquoi? Parce que cette personne, il n'est pas mukallaf, il n'est pas encore pubère. Donc ça, c'est la deuxième condition, et on doit faire attention à ça. Non, mukallaf, c'est-à-dire, quand je dis mukallaf, c'est-à-dire, si cette personne est apte, c'est-à-dire, comme on a dit, soit il est fou, il n'a pas de raison, ça, on ne peut pas l'obliger. Oui ou pas? Une personne, elle n'est pas encore pubère, on ne peut pas l'obliger, et la troisième personne, qu'on ne peut pas l'obliger, celui qui a rafi' al-qalam wa thalath. Celui qui dort, jusqu'à qu'il se réveille. Et celui qui n'a pas sa raison, jusqu'à ce qu'elle revienne, c'est ça? Et la troisième chose, Et jusqu'au que l'enfant devient pubère. Donc on remarque ces trois personnes, on ne peut pas les obliger à faire une chose. Pourquoi ils ne font pas, ils font pas parmi les gens du mukallaf, c'est-à-dire ceux qui sont, les choses qui sont obligatoires pour eux. Donc ça c'est la deuxième condition. La troisième condition. Quelle est la troisième condition pour ordonner le bien et interdire le mal?
Cheikh Al-Uthaymeen dit أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أم لا؟
Et ça, serviteur d'Allah, c'est le plus important peut-être pour nous. Parce que des fois on a la science. On sait que ça c'est haram, ça c'est la, ou ça c'est halal. Ça on le sait. Des fois, et deuxième condition, elle est accomplie. On sait que cette personne, elle est pubère, elle a deux raisons, etc.
La troisième chose qu'on doit savoir, est-ce que à qui on s'est adressé, c'est-à-dire quel est l'état
à qui je me suis adressé quand je l'ai ordonné de faire ce bien ou interdire ce mal. On explique.
فَلَوْ رَأَ شَخْصًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ جَلَسَ.
Un exemple. Je répète la troisième condition, c'est savoir l'état de la personne à qui je me suis adressé, quand, c'est-à-dire lors ou pendant je lui ordonne ce bien ou j'interdis ce mal, c'est-à-dire l'état actuel de cette personne. C'est-à-dire, il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, il donne un exemple. Une personne rentre à la mosquée. Il s'assoit en face de moi. C'est normal ça? Hein? C'est quoi le petit truc? Il a délaissé Tahiyyat al-Masjid. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? C'est un mal, parce que Nabi Sallam, il a dit La yajlisu ahadukum hatta yusalli rak'ataini. La personne quand il rentre, il ne s'assoit pas tant qu'on n'a pas fait deux unités de prière. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Tahiyyat al-Masjid. Pourquoi? Parce que si on a l'intention de s'asseoir, et on est obligé. Même certains savants ils disent que, selon le hadith, on est obligé de faire deux unités de prière pour la mosquée. Parce qu'on est rentré, on a l'intention de s'asseoir. Selon le hadith. Donc une personne, elle est rentrée. Et s'est assise en face de moi. Donc on doit vérifier. Donc on sait que, j'ai la science que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Selon la législation, selon Shara, selon la religion, c'est pas bien ça ce qu'il a fait. Deuxième chose, je sais que cette personne, elle est pubère. Troisième chose qu'on doit maîtriser, c'est savoir l'état actuel pendant et lors quand j'ordonne ce bien et j'interdis ce mal. C'est-à-dire, comme il a dit Cheikh, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? C'est-à-dire, avant que je demande, non, lève-toi, qu'est-ce que je dois faire à la base? Et c'est la troisième condition. Je dois savoir est-ce qu'il a déjà vu Tahiyyat al-Masjid ou pas. C'est pas parce qu'il s'est assis, je lui dis non, ça c'est pas bien ou ça c'est bien. Non, on lui demande est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Et ça tiré d'où? Tiré du hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa dalilu dhalika, il a preuve de cela qu'il faut savoir l'état de la personne. Quand tu lui demandes, on ordonne un bien, on interdit un mal. Il dit, et l'argument de ça, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة. Le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le khutbah du Jumu'ah. Le jour du vendredi, il faisait le khutbah. Il était sur le minbar.
فدخل رجل.
Une personne est rentrée.
فجلس. C'est le même cas. La personne s'est assise. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم.
Regardez la leçon tirée de ce hadith. Nabi, il est sur le minbar.
Il est en train de faire le khutbah.
Il voit une personne s'asseoir.
Et Nabi صلى الله عليه وسلم lui-même il dit
لا يجلس أحدكم إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. Lui-même, c'est lui qui le dit. Il voit en face de lui la personne s'asseoir. C'est-à-dire pour lui, il a pas fait tahiyyat al-masjid.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم la première chose que lui demande le prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi?
Est-ce que comme nous, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait ça?
Non. Regardez le shikma. Regardez le rifq. Regardez le sabr. Regardez
comment il a éduqué cette personne. Il a dit la première chose, Asallaita, as-tu fait la prière? Avant que lui dise la suite, il lui dit, as-tu fait la prière? Asallaita. Donc la personne lui dit non. Après cela, le prophète lui dit Om fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Subhanallah. Après lui dit lève-toi et fais ta prière et fais-la rapide. Wa tajawwaz fihima. Regardez comment il a éduqué. Et comment le conseil était au prophète, du prophète sallam à cette personne. Nous souvent, si on rentre, une personne ne fait pas une chose, directement ça c'est bien, ça c'est la chose. C'est souvent longtemps ça. Ou ça c'est pas bien, ou ça c'est bien. Sans savoir l'état de la personne. Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Et regardez, ça c'est sur le membre. Il est en train de faire un khutbah. Et surtout, une chose, c'est pas à délaisser. Et de ce hadith on tire, et on rappelle que c'est très important. Et n'oubliez pas, et éviter de délaisser Tahiyyat al-Masjid, même si le imam il est sur le mambar. Parce qu'on remarque souvent, je ne juge pas les gens. Je dis, on remarque souvent, les gens, il est de l'extérieur, il est pendant le khutbah, il dit, pendant l'imam, tant que l'imam il est sur le mambar, moi, je m'assois directement. Et ça, c'est khilaf al-Sunnah. Et sinon, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le mambar, le jour du jour du Jumu'ah, devant tout le monde, il n'était pas que seul, devant combien de personnes il était présent pendant le Jumu'ah, il a dit Om fasalli, devant tout le monde, lève-toi et fais ta prière, c'est-à-dire la prière du les deux unités pour le masjid.
وتجوز فيهما الحديث اللي دون صحيح البخاري صحيح المسلم واللفظ له عن جابر بن عبد الله
دونك الحديث اللي اوتنتيك اللي دون صحيح البخاري صحيح المسلم et je répète selon ce hadith on doit apprendre que c'est recommandé de faire deux unités de la prière quand on rentre à la mosquée même pendant le jumu'ah et même si le imam il est sur le minbar il est en train de faire sa prêche.
ولقد نقل لي ان بعض الناس يقول
يا بريسي كان اوتر اكزومبل يجي لي دي رابورتي parmi les gens
يقول يحرم ان يسجل القران باشرطه
il donne un autre exemple ils disent que certains gens ils disent que c'est interdit regardez la parole il dit les gens hein, je précise les gens ils disent que c'est interdit d'enregistrer le coran dans les cassettes certains gens ils disent c'est interdit, les gens je précise, pas nous savons, des gens, normaux, ils disent, c'est interdit d'enregistrer le Coran dans les cassettes ou dans les CD, dans l'acharette. En général, c'est les cassettes.
لِأَنَّ ذَلِكَ إِهَانَةٌ لِلْقُرْآنِ عَلَى زَعْمِهِ.
Pourquoi pour eux, hein, pour ces gens, ils disent, parce que il n'y a pas du respect de la parole d'Allah, le fait qu'on l'a mis dans la cassette, et peut-être cette cassette, comme les gens ici me disent, ça peut être par terre, ça peut être dans un endroit sale, où il y a une impureté, ils disent que ça c'est ihan le Coran. Peut-être les gens, ils vont sous-estimer la valeur du Coran, ou la parole d'Allah Ta'ala. Selon eux, bizarmihim, ce qu'ils prétendent.
فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة لظنه أنه منكر.
Donc ces gens ils disent, il interdit, regardez, ils interdisent les gens à enregistrer le Coran dans les cassettes, d'après ce prétexte que c'est, ils n'ont pas respecté la valeur du Coran et la parole d'Allah, ils interdisent d'enregistrer le Coran dans les cassettes. Pour cette raison. لأنه منكر. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est du mal. Ou c'est un mal pour ça. Donc c'est pour ça qu'ils l'interdisent. C'est-à-dire leur intention, elle est bonne. Ils disent que nous, apparemment c'est du mal comme ça, donc on doit l'interdire.
Fanaqul, sur le même, il dit, mais on dit, c'est-à-dire nous, les savants, on dit. Fanaqul, on lui dit, إِنَّ الْمُنْكَرَ أَنْ تَنْهَاهُمْ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مُنْكَرَ فلا بد ان تعلم ان هذا منكر في دين الله وان هذا في غير العبادات.
C'est-à-dire, avant que tu interdis cette chose, tu dois vérifier, savoir le jugement de ça. Est-ce que c'est un bien, donc on leur donne, ou est-ce que c'est un mal, et si c'est un mal dont à Shara, là on l'interdit. Donc il ne faut pas qu'on dise ça c'est un bien donc on l'ordonne, on recommande les gens à le faire, ou vice versa, interdire une chose que dont la législation elle n'est pas recommandée. Donc c'est pour ça qu'il dit وَهَذَا فِيْرَيْ الْعَبَدْ. Et en plus, le fait d'enregistrer le Coran dans les cassettes, est-ce que ça c'est une adoration, Issa? Est-ce que, je ne peux pas, je précise bien, pas la lecture du Coran, pas écouter le Coran, ça c'est une ibada, oui ou pas? Mais que les harbash al-hasanat. Donc la lecture du Coran ou le fait d'écouter le Coran, c'est une adoration. Bon, je ne parle pas sur ça, je parle sur le fait d'enregistrer le Coran dans un CD ou sur une cassette. Est-ce que ça c'est une adoration? C'est pas une adoration. C'est un outil qui nous permet d'écouter ou entendre le Coran, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc en lui-même, le fait d'écrire le Coran sur un papier, c'est pas une adoration. Enregistrer le Coran sur une cassette en lui-même, c'est-à-dire le fait d'enregistrer, de prendre la cassette et la mettre et l'enregistrer, c'est pas une adoration. La preuve, c'est pas recommandé ni par Allah Ta'ala, ni par le Prophète sallam. Et on sait très bien que ça n'est nulle part dans Ash-Shara, dans la religion. Donc c'est pour ça qu'on peut pas juger que ça c'est une adoration. Donc, on doit savoir. Amma al-ibadat. Mais dans les adorations. Mais dans les adorations. Amma al-ibadat. فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة لم يعلم أنها مما أمر الله به فإننا ننهاه لأن الأصل في العبادات المنع. Mais par contre, dans les adorations, si on trouve une personne fait une adoration et que cette adoration elle n'existe nulle part dans Shara, dans la religion, là on est obligé de l'interdire. Pourquoi? Parce que à la base, les choses dans les religions, ils sont interdites. À la base, c'est-à-dire, on ne peut pas pratiquer une adoration si Allah Ta'ala nous a pas recommandé de pratiquer, et aussi, on ne peut pas interdire une chose si elle est nulle part dans la parole, dans la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, à partir de deux choses, on peut juger que est-ce que ça c'est ordonné par la religion ou c'est interdit par la religion. Donc on remarque, on distingue entre les choses traditionnelles ou les choses normales, c'est-à-dire on mord la hadat, les traditions. Par exemple, moi aujourd'hui je vais porter un kamis, on va dire une couleur bleue. Personne ne peut m'interdire, me dire, Nabil, là il y a juste de porter cette couleur bleue. Oui ou pas? Hajj. Personne ne peut nous empêcher de nous dire, ça c'est pas bien. Pourquoi? On doit lui dire, est-ce que ça fait partie du shara? Est-ce que ça fait partie de la législation de porter la couleur bleue d'un kamis? Non, nulle part. C'est une tradition que les gens, peut-être, ils se sont habitués à porter un kamis. Peut-être c'est une tradition que les gens portent cette couleur ou portent un habit bien particulier. Par exemple, selon les traditions, là où vu il y a plusieurs pays, plusieurs mêmes continents, peut-être chacun est connu, il y a des conditions sur le pays d'où vient. Donc on ne peut pas dire ça y est juste ou ça l'est juste, sachant que on n'a pas une preuve évidente que ça fait partie de la religion et que cette religion l'ordonne ou l'interdit. Donc on doit vérifier est-ce que ça c'est traditionnellement ou ça fait partie des adorations. Donc il faut distinguer ces deux choses. Donc, on a vu la troisième condition. La troisième condition avant d'ordonner le bien et interdire le mal. Il nous reste deux. Donc je répète, la première c'est la science. Ça c'est la première condition, la science. La deuxième chose, tu dois savoir à qui tu t'adresses, est-ce qu'il est mukallaf, ghayr mukallaf, qadir, ghayr qadir, etc. Avant que tu fasses tamur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. S'il est un enfant, on ne peut pas lui obliger une chose ou l'interdire ou lui dire que tu commets un péché si tu fais ça, si tu pratiques ça, parce qu'il ne fait pas partie des gens mukallafin. La troisième condition de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, an yakuna 'aliman bi hal al ma'mur. Tu dois savoir lors tu lui donnes, lors ou pendant que tu lui ordonnes ce bien et tu l'interdis ce mal, quelle est sa situation? Est-ce qu'il a déjà pratiqué ou pas? On a dîné, on a cité le hadith ensemble, quand le prophète sallam, il était sur le manbar, une personne est rentrée et il a vu assis, il a dit, et il a posé la question, as-tu fait la prière? Il a dit non. Il a dit, homme, fassalé. Ensuite, il a dit, lève-toi et fais tes prières, c'est-à-dire les deux unités de Tahiyyat al-Masjid, et fais-les rapides. Wa tajawwaz fihima. La quatrième condition. Quelle est la quatrième condition avant d'ordonner le bien et interdire le mal? Amen. Avant ça. La quatrième condition que le ulama la cite, et sur le même, il dit, la quatrième condition est أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه. بلا ضرر يلحقه. La quatrième condition, avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal, أن لا يلحق ضرر. أن لا يلحق ضرر. Il ne faut pas qu'il y aura un danger pour toi, avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Si lui atteint un mal, supposons que si tu ordonnes ce bien ou d'interdire ce mal, soit ils vont t'enlever tes enfants ou ta famille, ou peut-être même pour toi-même, ils peuvent te tuer ou t'avoir un mal atteint. Ils peuvent t'atteindre un mal. Donc là, il ne devient plus obligatoire pour toi. Pourquoi? Parce que il t'a atteint un mal. لكن إن صبر وقام به فهو أفضل. Mais si il ordonne ce bien ou il interdit ce mal, il patiente, c'est mieux. Je précise, il a dit c'est mieux. C'est-à-dire yasber, et c'est-à-dire il appelle à ça et il patiente, c'est mieux. لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة. Pourquoi? Parce que toutes les adorations, on ne peut pas les faire sans la capacité de les faire. On ne peut pas pratiquer une adoration ou une pratique si on n'a pas la capacité. Et ça, c'est tiré de la parole d'Allah Ta'ala. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah de ce que vous pouvez. Nous, on fait le maximum en craignant Allah. Donc, wa qawluhu, et aussi, dans la zone de passage, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Comment on traduit, Abou Mariam? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala ne surcharge pas une âme au-delà de sa capacité. Donc, vous remarquez, il y a toujours cette capacité de pratiquer une chose. فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله. Donc s'il craint que en faisant ça cette personne va le tuer, par exemple. فإنه لا يلزمه أن يأمر به. Donc si par exemple s'il ordonne ce bien, cette personne va le tuer. Donc il n'est pas obligé d'ordonner ce bien. Il est obligé pourquoi? Parce que il sait très bien que il y aura un mal qui va l'atteindre. لأنه لا يستطيع ذلك بل قد يحرم عليه ذلك وقال بعض العلماء بل يجب عليه الأمر والصبر وإذا تضرر بذلك ما لم يصل إلى حد القتل لكن القول الأول أولى. Donc il dit, il y a certains savants, ils ont dit que le contraire, que il y en a, ils disent que si en faisant, on ordonne ce bien, il y aura un mal qui va l'atteindre. Les certains savants disent qu'il est interdit, même il commet un péché s'il ordonne ce bien. Pourquoi? Parce que par la suite, il va lui atteindre un mal. Donc c'est pour ça, certains savants, ils l'ont interdit. Même si à la base, c'est recommandé de le faire. Mais suite au mal qui va l'atteindre, les savants, ils l'ont empêché, ils l'ont interdit de faire ça. Et certains savants, ils disent non. Il appelle à ça. Il appelle à ça. Et il patiente. Et après, il dit le premier avis, c'est mieux, c'est-à-dire appeler à ça et patienter.
لأن هذا الأمر إذا لحقه الضرر بحبس أو نحوه فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا مما حصل حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر.
Ils disent, si une personne, il ordonne le bien, mais par la suite, peut-être il sera emprisonné. Ils disent que cette personne, il sera un exemple pour le reste de tout le monde. Donc, personne ne peut appeler ou ordonner ce bien, parce qu'ils savent que si là, eux aussi, ils vont appeler ce bien, ils auront le même résultat, donc ils seront emprisonnés ou un autre mal qui va leur atteindre. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est mieux qu'il ne fait pas par ce qui va lui atteindre ou ce, qu'il a, pour ce qui va lui arriver par la suite. Al-Shart al-Khamis.
Il reste combien pour les chats?
5 minutes. La cinquième condition, et on va terminer Inch'Allah, la cinquième condition pour ordonner le bien et interdire le mal, qui connaît la cinquième condition? On l'a déjà dit, ça c'est la quatrième condition. Zakarna shurut khamsa, ou zakarna arba shurut, hatta يعني يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا الشرط الأول والثاني والثالث والرابع وبقي الشرط الأخير وهو من أهم وأعلى هذه الشروط. C'est la condition la plus importante parmi ces cinq conditions. Malgré que tout est important parce que c'est une condition. Non? Ça on l'a déjà. Ça c'est pour ça que je dis ça c'est une sixième condition. Certains ils la rajoutent dans la sixième condition. La cinquième condition. Ça, c'est dans la sixième. Allah yamur an shayin huwa yatibi. Comme a dit le shayin, la tamur bi khuluqin wa ta'ti mitlahu. Bi mitli. Aaron alayka idha ta'ida. Idha fa'alta azim. Ça, c'est la sixième condition. Et après, certains savants, ils disent que ce n'est pas une condition, mais c'est un détail. Mais la cinquième condition qui est la plus importante, que. Non, c'est pas une condition, on va dire. C'est une tariqa, c'est-à-dire comment la faire. Parce que là, aujourd'hui, on a traité juste sur les cinq conditions. La semaine prochaine, on va traiter comment faire la nasiha. Comment faire l'amr al-ma'ruf et l'amr al-ma'ruf. Parce que tout le monde se précipite à le faire. Mais il y a une façon à le faire, il y a des degrés. Ça, on aura l'occasion la semaine prochaine, le mercredi prochain, de en parler. Mais la cinquième condition de l'amr al-ma'ruf et l'amr al-ma'ruf. Non. Fait de la pour lui. Non, c'est pas une condition. C'est bien de le faire, mais c'est pas une condition très importante. Que les savants vraiment, ils l'ont cité dans les conditions. C'est-à-dire, avant de faire ça, tu dois savoir ces cinq choses. Sinon, t'es pas apte. Lest ahlam li amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Qabl hadha, biftirad an insan khayf, hayya. Montrer à cette personne. On l'a déjà dit. C'est la troisième condition. C'est la première condition, ça on a cité. La science. La deuxième condition, c'est connaître les. Est-ce que la personne à qui on s'adresse il fait partie des gens mukallafin? C'est un enfant, je ne peux pas l'obliger. Un majnou, je ne peux pas l'obliger. Un fou, je ne peux pas l'obliger. La troisième condition, pendant ou lors, on lui demande, on leur donne ce bien, on l'a dit au mar, on doit savoir est-ce qu'il a déjà pratiqué ou pas. Comme l'a dit. Sahabi que le rentré le jour du Jumu'a, le prophète a dit ah sallah, il n'a pas dit lève-toi parce que tu n'as pas fait, il a dit ah tu fais la prière, donc ça c'est la transition. On doit savoir est-ce qu'il a pratiqué. S'il n'a pas pratiqué, là on lui dit fais cette chose. La quatrième condition, on a dit, c'est s'il ne devrait pas avoir un mal engendré par ça. C'est-à-dire, soit il leur donne un bien ou il interdit un mal, il ne doit pas avoir un mal qui s'engendre par la suite. Soit un meurtre, soit un emprisonnement, etc. Ça, la cinquième condition, le temps. Là, ça c'est dans la façon de le faire. Ça c'est dans la façon. Aïe, la cinquième condition, je vais vous lire pour terminer. Al-Shart al-Khamis. Écoutez très bien. C'est la plus importante.
أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمْ مِنَ السُّكُوتِ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.
C'est-à-dire, avant d'ordonner ce bien ou interdire le mal, il ne faut pas engendrer un mal plus grand que le premier.
Je vous simplifie parce que l'exemple qu'il a donné, il a dit une personne, il fume.
Sijara ou dukhan, yudakhim, yashrab al-dukhan, kingoulou hnaya. Yashrab al-dukhan. On sait que le hukm c'est haram. Le hukm il est haram, ne cherchez pas la divergence, pas divergence. C'est le hukm il est haram.
Mais, écoutez très bien, le fait que si je l'interdis la cigarette, j'ai un yaqin, j'ai une certitude que c'est une personne très très attachée à la cigarette, je sais qu'il va boire l'alcool. Ça je le sais. Il me dit, Wallah, t'habbes alayya nashrab. Je lui dis, dans ce cas, reste avec ta cigarette, c'est mieux. Malgré que ça, c'est pas bien. Mais, pourquoi? Parce qu'on a un mafsadatayn. On a deux dégâts. Ce qu'on doit, qu'on a deux dégâts, toujours on avance la plus faible. Et vice versa, c'est al-masalih. Si on a un maslahatayn, on avance la plus prioritaire, la plus haute. Et ça, c'est beaucoup de gens l'ignorent. Ils pensent que c'est l'amr ibn al-munkar, mais c'est les jamiens. L'idjé yamr bin ma'ruf, l'idjé yamr bin al-munkar, celui qui vient parle. Non. Et tu dois savoir. Est-ce que le fait que tu vas ordonner ce bien, et aussi ça s'applique pour le bien, parce que imaginons qu'une personne moitié islam, le contre-exemple, une personne convertie, tu lui dis, tu n'as que 5 prières obligatoires, après que tu as fait shahada, tu n'as que 5. Un deuxième, il lui dit, non, après, tu as 5. Al-Rawatib, Al-Nafila, Al-Dhikr, ça, Al-Ghusl, la façon la plus complète, le jour du Ramadan, Siyam l'Ithnain al-Khamis, ça. Et tu sais que ça va lui surcharger et peut-être il va délaisser l'islam à cause de ça. Donc c'est mieux de garder, c'est-à-dire, vu que tu sais que les dégâts, c'est-à-dire le fait d'ordonner ce bien, tu auras plus de dégâts que le premier, laisse-le à son état que engendrer des dégâts plus graves que les premières. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ce principe. Et c'est pour ça que les ulama ils disent, et ça c'est, on trouve dans les livres, les ouvrages de Ibn Qayyim rahimahullah, dans I'lam al-Muqayyin, et aussi même dans les ouvrages de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, une risale azima. Il a une lettre qui s'appelle Amr bin Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Wallahi ansahukum bi mish qira'atiha wa fiqha, hifdhiha. C'est pas que je vous recommande de lire, c'est l'apprendre par cœur. Tellement de leçons tirées de ça, ajiba. Et si on ne sait pas, si on ne connaît pas tout ça, on ne pourra pas faire ce devoir. Donc c'est pour ça, Ibn Qayyim a dit, et même sur le thème, il le répète, il dit, pour terminer, وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ إِنْكَارَ الْمُنْكَرْ يَنْتُجُ مِنُ إِحْدَ أَحْوَالِ الْأَرْبَعَ. Blâmer ou interdire le mal, c'est 4 degrés. Vu que c'est l'heure de Isha, le mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, on parlera sur les 4 degrés d'interdire le mal. Il y a 4 degrés qu'il faut les savoir pour blâmer ou interdire le mal. Donc, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, wa ila maw'idina yawm al-jumu'ah fi al-dars al-usbu'i bi madati fiqh al-islami. Jazakumullahu khair.